Vous écoutez France Culture.
Sur le bateau d'Ulysse, aujourd'hui, atome et vide, hasard et nécessité, avec Jean Salem. L'atomisme antique, censuré, dénié, refoulé par l'idéalisme, a été relayé par la passion philosophique d'un Gassendi et des matérialistes du XVIIIe siècle, ensuite par Marx, par Engels qui l'ont commenté. Il est toujours là et même il nous arrive avec une étonnante fraîcheur grâce à vous, Jean Salem, qui transmettait l'enseignement de Démocrite, d'Épicure, de Lucrèce. Vous restituez l'énergie, la vitalité de ces écrits et vous êtes philosophe. Vous avez publié entre autres « Tel un dieu parmi les hommes », »,« L'éthique d'Épicure », »,« Démocrite, grain de poussière dans un rayon de soleil » et aussi « La mort n'est rien pour nous », »,« Lucrèce et l'éthique », tous ces ouvrages chez Vrin. Et puis en livre de poche, « L'atomisme antique ». Jean Salem, bon, la tradition matérialiste sous sa forme antique n'est pas seulement l'apanage des Grecs, il y a aussi l'atomisme indien, chinois, le matérialisme chinois.
Effectivement, on nous interdit souvent d'appliquer ce mot de matérialisme non seulement aux étrangers, mais même à certains anciens Grecs, bref, à tous ceux qui, avant Aristote, ne disposaient pas du mot de matière, hulé. Mais enfin, même si ce mot n'apparaît qu'au XVIIe siècle, un mohanisme parmi tant d'autres, nous, notre école, nous nous donnons la permission de considérer que des penseurs qui, en général, considèrent que les dieux, s'ils existent, ne s'occupent pas de nous, je pense à Épicure, qui croit que les dieux existent et qui, en même temps, considère qu'ils ne s'occupent pas de nous, mais la plupart des autres sont athées, des penseurs qui considèrent qu'après la mort, il n'y a rien, sinon quelque chose comme un sommeil éternel, qui croient que tout s'est fait sans l'aide d'aucune providence, peuvent, pour ces raisons et pour d'autres, être qualifiés de matérialistes, et ce, dès la plus haute antiquité. Par exemple, celle de Démocrite, qui vivait au 5e siècle avant Jésus-Christ et qui doit être mort, pense-t-on, vers les années 360 avant Jésus-Christ, donc au 4e.
Et si l'atomisme antique nous parle si directement, c'est que c'est aussi une philosophie des atomes qui induit un art de vivre, une pensée du plaisir.
Absolument. On peut comparer cette vision plus que cosmique, universelle. Il y a une infinité de mondes. Un monde, ça se dit cosmos en grec, comme vous savez, dans l'univers infini pour ces gens-là. On peut considérer qu'on nous parle d'un immense Lego, c'est-à-dire d'un univers où le complémentaire du vide, immense, infini, ce sont des petits morceaux, pas de plastique, mais de matière, aux tailles et aux formes variées.
Et donc vous faites allusion au jeu Lego.
Au jeu de Lego. Comme dans le Lego, ces pièces sont pratiquement inusables, elles sont même inusables, éternelles. Et il faut concevoir dans cet imaginaire atomistique une sorte de billiard ball universe, comme dit un commentateur anglais, c'est un univers de boules de billard, un univers où des petits grains s'entrechoquent, giclent, rebondissent dans tous les sens, et puis forment peu à peu des composés qui ont une forme, la forme d'un monde notamment, et à l'intérieur des mondes, la forme d'un être humain ou d'un animal ou d'une plante. Et tout ça se déroule un peu, comme dit Leucippe, l'ancêtre un peu fantomatique de Démocrite, comme si on avait affaire à un tas de pièces d'or séparées en éternel mouvement dans le vide. Caractère sporadique de l'être, sporade, les îles sporades, c'est les îles dispersées, et caractère un en même temps. Elles sont toutes, ces petites pièces, non pas faites d'or, mais de matière. Et alors je réponds un peu tard à votre question de tout à l'heure. Oui, on trouve cette intuition, non seulement chez les petits enfants qui pensent un petit peu, mais on la trouve dans la physique Jaina en Inde au 5e siècle avant Jésus-Christ. On la trouve chez les Motekali Moun, des théologiens arabes du 8e, 12e siècle, cette idée que l'être se réduit à des petites poussières insécables, en grec, atomes. Et chez Épicure et Lucrèce, car Démocrite c'est le 5e siècle avant Jésus-Christ, mais Épicure et Lucrèce vivent respectivement au 3e et au 1er siècle avant Jésus-Christ, qui sont des époques de bouleversement cataclysmique du point de vue historique, on a une sorte de préséance, de passage au premier plan, de l'éthique, de l'art de vivre, de l'art urgentissime de vivre et de vivre heureux.
Et donc, il faut peut-être rappeler que cette époque est une époque de troubles et d'angoisse, donc aussi une époque de retour du religieux, je suppose.
On a une sorte de coïncidence assez extraordinaire pour l'historien, que je ne suis pas, mais j'en ai lu plus d'un, entre le moment de l'écroulement de la cité grecque traditionnelle suite à la conquête de la Grèce par les Macédoniens et puis l'expédition d'Alexandre qui a été jusqu'aux limites du monde connu à peu près dans tous les sens et qui a soumis le monde connu, Chine exceptée, à peu près dans tous les sens pendant quelques années. Et on a également à la fin de la République à Rome, lorsque Lucrèce, qui vit aux alentours des années, disons, moins 100 à moins 50 avant Jésus-Christ, on a dans cette époque où vit Lucrèce également une suite de cataclysmes, de choses jamais vues. Si vous suivez mon regard, ça intéresse beaucoup les étudiants parce que ça rappelle évidemment les catastroïcas et autres globalisations terribles comme celles que nous vivons. À l'époque où vit Lucrèce, c'est l'époque des guerres civiles. On se bat dans Rome, ce qui est du jamais vu. Des milliers d'esclaves sont crucifiés sur la voie appienne pour leur apprendre à ne plus se révolter. Spartacus, 72 avant Jésus-Christ. La conjuration de Catilina, les incursions déjà de quelques rivaux aux frontières de l'Empire, etc. De ce qui n'est pas encore l'Empire, mais enfin, disons, du domaine romain.
L'Église aussi, durant le Moyen-Âge, et bien au-delà, à lutter, et ce n'est pas une surprise évidemment, contre le matérialisme, contre les atomistes, mais c'est surtout Épicure qui a été pris pour cible. C'est vraiment, lui, l'ennemi du christianisme.
Tout à fait. Pour prolonger ce que je disais tout à l'heure, on a à l'époque d'Épicure, comme à celle de Lucrèce, une véritable résurgence des croyances traditionnelles, surtout à Rome à l'époque de Lucrèce. Le Flamina de Jupiter, qui n'avait pas de titulaire depuis longtemps, est à nouveau pourvu, etc. Et puis on a, dans les deux cas, une arrivée de religions en général venues de l'Anatolie ou de ce secteur-là du monde méditerranéen qui promettent le salut individuel après la mort. Et on est donc en présence, comme à notre époque, d'adhésions massives dans ces périodes d'anxiété et de troubles à des religions exotiques, bizarroïdes, sectaires, comme on dirait aujourd'hui. Au Moyen-Âge, il est à remarquer que Démocrite s'en tire assez bien, sans doute parce qu'à son atomisme, il n'a pas mêlé de façon aussi claire l'hédonisme, c'est-à-dire le culte du plaisir hédonné. Démocrite est respecté, sans doute aussi parce qu'il passe pour savantissime. Aux yeux des anciens, c'est un philosophe qui a la taille d'un Platon ou d'un Aristote, subtilissimus antiquorum, le plus subtil de tous les anciens, dit Sénèque. Cicéron s'exclame, il n'est rien dont il ne traite, son œuvre est encyclopédique. Tandis qu'Épicure et Lucrèce, Épicure surtout, passe quasiment pour l'antéchrist. Pour prendre quelqu'un de plus subtil que les futurs inquisiteurs, Dante lui réserve évidemment une place en enfer, alors que Démocrite, qui pourtant a fait reposer, dit Dante, le monde sur le hasard, stationne, si je puis dire, dans le purgatoire, ce qui est tout de même plus avantageux.
Alors Démocrite, comme après lui Épicure, puis 4 siècles plus tard Lucrèce, ont pris appui sur l'expérience, sur les informations qui sont fournies par les sens pour élaborer leur système. Donc ce n'est pas un savoir qui s'est développé à partir de l'intuition.
Absolument. Chez Épicure et Lucrèce, je le répète, puisque Lucrèce se proclame et ne veut guère être autre chose que cela, le fidèle disciple d'Épicure, 2 siècles après Épicure, un immense siècle et demi après Épicure. Chez Épicure et Lucrèce, comme le dit une phrase qui nous reste d'Épicure, une sentence dite, la sentence Vatican XIV, « La vie périt par le délai. Toi qui es d'aujourd'hui et qui n'es pas de demain, tu devrais te préoccuper de rendre cette vie heureuse. Chacun recherche le bonheur, le remet à demain la recherche du bonheur, et pourtant chacun de nous meurt affairé. » Alors, cet art de vivre qui passe au premier plan à l'époque qu'on appelle hellénistique, dans cette époque de bouleversement cataclysmique de la cité grecque et du monde en général, Cette philosophie dans laquelle on fait passer l'éthique au premier plan, elle n'en repose pas moins, elle n'en a pas moins pour pilier de sagesse une physique. C'est en cela qu'Épicure est encore démocritéen, bien sûr. Il est à peu près entièrement démocritéen en physique. Et, à mon avis, il ne gauchit absolument pas l'inspiration démocritéenne en s'appuyant encore beaucoup plus, bien sûr, que son lointain ancêtre sur l'expérience. On trouve chez Démocrite comme chez Épicure la preuve principale de l'existence du vide dans le fait qu'il y a dans l'expérience, sous mes yeux, du mouvement. Démocrite qu'on transforme parfois en une sorte de spéculatif, de disciple un peu baroque de Parménide. Démocrite donne par, entre autres exemples pour prouver « Deic nuusin » dit Aristote, « démontrer ces gens-là l'existence du vide ». Il prend entre autres exemples « l'eau qu'on verse dans la cendre ». Ça ne triple pas, ça ne quadruple pas de volume, ça prouve bien, dit Démocrite, qu'il y a des pores, des canaux, des petits pertuis dont les épicuriens babillitants, dirait Plutarque, traduit par un humaniste du XVIe siècle, il y a des creux, autrement dit, il y a du vide, et une des nombreuses preuves, c'est ce qui se passe quand je verse de l'eau sur la cendre. Je prolonge avec les belles preuves de Lucrèce, que Lucrèce ajoute, mais tout ça est le même fond. Il y a une unité, Démocrite, Épicure, Lucrèce, qui a déjà été signalée par Nisan et par mille autres avant moi. Si tu prends dans ta main une boule de plomb et une boule, c'est-à-dire une pelote de laine de volume sensiblement égal, tu sentiras comme une différence, nous dit Lucrèce. C'est la preuve qu'il y a plus de vide dans un corps que dans l'autre.
En 1970, le biologiste Jacques Monod ouvrait son livre « Le hasard et la nécessité » par une soi-disant citation de Démocrite « Tout ce qui existe est le fruit du hasard et de la nécessité ». Or, pour vous, Démocrite n'a jamais affirmé cela. Le hasard chez Démocrite n'est que le nom de ce que vous appelez l'universelle nécessité.
C'est cela. Je dois dire par honnêteté que je n'en fais pas un article de religion, même si j'y tiens beaucoup. Mon ami Pierre-Marie Morel, par exemple, qui a fait un très beau livre sur Démocrite, ne serait pas absolument d'accord là-dessus. Mais ce que moi j'ai dit, c'est qu'il y a incontestablement un immense méli-mélo chez ceux d'en face lorsqu'on parle de hasard et de nécessité. Alors ça donne parfois une opposition un peu bizarre entre Épicure, qui serait le philosophe du hasard, première nouvelle, parce qu'il fait une place au hasard, mais il ne parle que de loi de la nature. En latin de Lucrèce, ça s'appelle « foedera naturae ». Alors on s'inquiète parfois, faut-il traduire par les contrats de la nature, les pactes naturels ? Non, c'est comme en français, un terme plus ou moins juridique qui s'appelle « les lois de la nature ». Et Lucrèce ne parle que de ça, même s'il fait, comme son maître Épicure, une place au hasard. Et puis alors on explique que Démocrite, ce serait la nécessité et peut-être aussi le hasard, comme vous le dites en rappelant cette citation de Monod, qui est une fausse citation, ce qui n'enlève rien au génie de Monod. Alors ce que j'ai essayé de dire, c'est que ce qui inquiète ceux d'en face, qu'ils s'appellent Lactance, père de l'Église, ou Kant, qui tous abordent ces questions en nommant Démocrite et Épicure, ce qui les inquiète, c'est l'absence de providence. C'est une nature qui œuvre, comme dit un commentateur italien, senza scopo prefisso, sans scope, sans visée arrêtée à l'avance. Bref, l'absence, encore une fois, de vision antécédente de ce qui va se passer, vision qui serait celle, évidemment, d'une intelligence créatrice ou du moins organisatrice. Lorsque Démocrite parle de ce qui relève de l'ananké nécessité, et de ce qui relève de l'automatos, on a tendance à traduire, surtout si on a beaucoup trop lu Aristote, automatos ou automaton par le terme de hasard, mais les traducteurs du corpus hippocratique, quand ils se trouvent en face de passages dans lesquels on parle de l'opposition entre la bile provoquée par le médecin et la bile dite automatique, c'est-à-dire celle qui vous advient dans la jaunisse par exemple, ils traduisent ça par spontané. Alors, l'automatos chez Démocrite, ce qu'on traduit parfois par hasard, à mon avis à tort, ça n'est jamais que ce qu'il y a de plus conforme aux lois de la nature. C'est ce qui arrive spontanément. Et ce que dit le CIP, puisqu'il y a une fausse citation, la vraie citation, ce que disait le CIP, le maître de Démocrite, c'est que tout dans la nature advient en vertu d'une nécessité et d'une raison. Il ne parle pas du tout de hasard.
Alors pour Démocrite, la matière a une constitution atomique et elle est animée d'un perpétuel mouvement et donc douée d'un pouvoir d'auto-organisation. Alors l'idée que la matière pouvait s'organiser d'elle-même, c'est vraiment inconcevable pour les spiritualistes. Et il y a un débat notamment entre Démocrite et Aristote. Enfin, c'est Aristote qui écrit sur Démocrite et il ne peut pas accepter cette idée d'auto-organisation, l'absence d'origine en fait.
Absolument. Je crois que tout, comme on dit parfois dans les cours, pour résumer de façon sommaire des choses compliquées, tout tient dans un témoignage numéroté A66, qui est en fait une citation d'Aristote s'inquiétant, on imagine presque le grand Aristote les poings sur les hanches, s'inquiétant de ce que Démocrite ait cru pouvoir expliquer l'origine du mouvement en disant que le mouvement est éternel. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour Aristote qui veut toujours le pourquoi, en deux mots détachés si possible, c'est-à-dire la cause finale, la raison du mouvement. Et de la même façon pour l'organisation, notamment des vivants, Aristote ne cesse dans son immense et superbe traité de la génération des animaux de polémiquer contre Démocrite et ses prolongements hippocratiques qui expliquent toujours le comment de la formation des dents ou de ce que vous voudrez, mais qui ne disent jamais le « ce en vue de quoi », comme on dit en jargon aristotélicien. Ils ne disent pas pourquoi la nature a fait que tel mécanisme se déroule de cette façon et pas d'une autre. Et là, on est bien sûr dans cette gigantomachie qui traverse l'histoire des idées et qui fait que si on lit le traité des parties des animaux d'Aristote, on est en face de 1000 formulations finalistes, parfois géniales, mais toujours finalistes. L'homme aurait la langue la plus mobile parce que la nature a prévu que c'est l'animal le plus intelligent, autrement dit celui qui devait parler un langage articulé.
Jean Salem, on ne peut pas passer sous silence non plus le rôle que Démocrite accorde au petit corps sphérique, notamment pour parler de l'âme.
Absolument. On parle de sphéroïde dans le jargon des atomistes, c'est-à-dire d'atomes, bien sûr, qui sont comme tous les autres atomes des grains de matière, particulièrement lisses, particulièrement ronds, pas d'une perfection géométrique, mais enfin ronds, et menus. Et ils ont la possibilité de se faufiler un petit peu partout. Vous savez, dans un roman de Maupassant qui s'appelle Montoriol, on parle d'un brasseur d'affaires qui s'appelle Andermatt, qui a un petit ventre rond, ce qui lui permet de se faufiler dans les soirées mondaines beaucoup plus vite que tout le monde, et de prouver, comme dit Maupassant, la supériorité des billes sur les pointes. Alors, c'est un petit peu ça, les sphéroïdes, les atomes de l'âme, disséminés dans tout l'organisme, expliquant la présence en nous de la sensibilité, de l'intelligence, animant jusqu'au bout des doigts le reste de l'organisme, mais constituant, après tout, un territoire corporel presque comme un autre. Lucrèce va jusqu'à cette déclaration très crue. L'âme est une partie du corps, comme le cœur, comme la main.
Jean Salem, j'aimerais aussi vous demander, parce que là je prends une espèce d'oblique, de dire quelque chose sur le clinamen, parce que c'est une notion qui est quand même assez connue. Elle appartient, je crois, à Épicure, et vous en parlez très bien dans vos ouvrages. Le clinamen, donc, suppose qu'on admette trois causes qui président au mouvement des atomes, la pesanteur, le choc qui modifie les trajectoires corpusculaires, et puis ce clinamen, cette déclinaison.
Sur beaucoup de points d'ordre scientifique, dirions-nous, Épicure, quoique postérieur à Démocrite, est moins moderne que lui. On parlait de l'âme tout à l'heure, il situe par exemple l'âme dans la poitrine, alors que Démocrite, comme Platon, l'a situé avec beaucoup plus de raison, de notre point de vue, dans le cerveau. Pour ce qui est des mouvements des atomes également, Épicure a prêté une pesanteur à titre de qualité inhérente aux atomes. Un atome tomberait naturellement du haut absolu vers le bas absolu. Et il semble que chez Démocrite, ça soit beaucoup plus subtil et que les atomes n'acquièrent la pesanteur, la gravité dans la direction du sol, du bas, que quand ils sont intégrés dans un tourbillon cosmogonique, c'est-à-dire un tourbillon d'atomes qui forme une sorte de nébuleuse qui peu à peu compose un monde où tout s'étage. Mais alors, cette faiblesse physique, d'ordre physique, est compensée dans l'épicurisme par cette passionnante théorie, la théorie dite du clinamen. Les atomes ne seraient pas toujours, même s'il y avait un observateur qui pourrait soumettre toutes les données à l'analyse, universellement, prévisibles. Ils auraient la faculté de dévier, selon un tout petit angle, de leur trajectoire précédente, sans qu'on puisse dire pourquoi, spontanément. Et alors, le truc, hein, cette sorte de deus ex machina, ça permet à Épicure, et ça a fait rêver beaucoup de gens, jusqu'à Althusser, en passant par une foule d'autres, ça permet d'introduire la liberté dans le matérialisme. Ça serait, dans les particules élémentaires, le signe de ce que tout n'est pas antédictible, si je puis dire. Tout n'est pas prévisible, tout n'est pas déterminé. Ça laisse la marge d'indétermination qui correspond, semble-t-il, à notre expérience. Car, comme disaient déjà les épicuriens, comment distribuer des louanges et des blâmes, juger nos voisins et nous-mêmes, si tout est absolument déterminé, ou comme dirait quelqu'un d'autre, écrit dans le grand rouleau, déjà écrit dans le grand rouleau.
On doit toujours donc finalement se représenter de façon dynamique cet univers des atomistes de l'Antiquité. Un atome isolé dans le vide infini, il peut être pris dans un corps, mais c'est un corps aussi qui vibre, c'est un univers vibrant.
C'est un univers vibrant, il y a même un mot fait pour ça dans le grec d'Épicure, palmos ou palsis. Et il faut que nous nous représentions, si on étudie l'atomisme, tout corps composé comme une sorte d'ensemble provisoirement stable, mais très provisoirement stable, où des particules s'entrechoquent, rebondissent en arrière, certaines s'évadent de la périphérie jusque dans l'air ambiant ou dans le vide qui se trouve autour, et d'autres, au contraire, s'associent au mouvement de la périphérie, de la table ou de notre corps. Et cet équilibre, qui ne peut pas durer éternellement, explique tout de même que nous ne fondons pas en un instant, car nous perdons sans cesse des atomes, mais nous en récupérons aussi quelques-uns. Les corps inertes en récupèrent, et nous, évidemment, encore plus, puisque non seulement à la périphérie de notre peau, de notre corps, il se passe une foule d'échanges, mais comme vous savez, et d'ailleurs c'est un des beaux plaisirs de la vie, nous absorbons des aliments pour nous refaire, pour remplir des stocks d'atomes dont nous sommes déficitaires provisoirement.
Et c'est un monde qui se meut sans fin, donc il y a, dans un vide immense.
Vide infini, nombre des atomes infinis dans un univers infini. Ce sont les trois entités, si je puis dire, infinies et immortel, auquel les épicuriens, bizarrement, ajoutent des dieux qui se régénèrent, pas par magie, mais de façon très originale, pendant tout le cours du temps, sans pourtant interférer avec nos actions.
Et il faut dire que chaque atome a finalement une vitesse qui peut être inhibée, mais qui peut être retrouvée aussi.
Absolument. Les atomes, dit Épicure, sont isotakeis, donc ils ont tous la même vitesse. Et un atome est toujours à la vitesse de l'atome, sauf que, pris dans un composé, il est sans cesse freiné, inhibé. Sa vitesse est inhibée, comme vous dites très bien, provisoirement.
Jean Salem, Démocrite, Épicure, Lucrèce sont, vous l'avez montré, à bien des égards nos contemporains, et pas seulement parce qu'il y a dans leur thèse des anticipations qui s'accordent avec la physique de notre temps. Ils ont pris la nature pour guide, et ils n'ont pas séparé leur philosophie des atomes de la recherche d'un hédonisme maîtrisé, serein, qui a su évacuer finalement le fond d'angoisse que l'on trouve chez d'autres maîtres de volupté. Vous avez consacré plus d'une dizaine d'années à l'atomisme antique, ce qui a donné lieu notamment à trois ouvrages publiés chez Vrin, « Démocrite, grain de poussière dans un rayon de soleil », Tel un dieu parmi les hommes, l'éthique d'Épicure. Et puis, ce titre que j'aime beaucoup, La mort n'est rien pour nous, Lucrèce et l'éthique. Et un livre de poche référence, comme appendice à vos travaux, L'atomisme antique. Merci Jean Salem.
Sur le bateau d'Ulysse, une série proposée par Gérard Gromère. Aujourd'hui, Atomes et vides, hasard et nécessité, avec Jean Salem. Prise de son Claire Levasseur, réalisation Sylvie Migaud. Thank you.